Alors, bonjour à tous. Ce matin, on va commencer ensemble en tournant dans le psaume 8. On va commencer en lisant ce psaume ce matin. Ce matin, on va terminer la leçon 3 qu'on n'avait pas eu le temps de terminer la semaine dernière. La leçon 3, la section sur la. On était rendu à la section sur la Trinité. On est toujours à étudier la personne de Dieu. Et plus particulièrement, le Dieu qui se manifeste et qui existe en trois personnes. On est dans la Trinité. Et ensuite de ça, on va commencer la leçon 4 sur les œuvres de Dieu. Qu'est-ce que Dieu accomplit, son plan et tout ce qu'il accomplit. Donc, en lien avec les œuvres de Dieu, le psaume 8 va très bien dans ce sens-là et on va le lire ensemble. Psaume 8, à partir du verset 1, on lit « Au chef des chantres, sur la guittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » On voit dans ce psaume, encore une fois, un psaume qui célèbre la grandeur de Dieu, la beauté du nom de Dieu. On a vu la semaine passée que le nom de Dieu réfère à sa réputation. Lorsqu'on parle de... On a perdu un peu ce sens-là aujourd'hui de nos jours. Lorsqu'on donne des noms aux gens, on trouve plus un nom qui nous plaît lorsqu'on le dit, plutôt que de chercher sa signification. Mais à l'époque, et encore aujourd'hui, dans plusieurs cultures, on cherche un nom qui veut dire quelque chose parce qu'il y a une réputation d'attacher au nom. Et l'Éternel, c'est le « Je suis », c'est notre Seigneur, c'est celui que son nom domine sur toute chose, son nom est grand. Et il a manifesté sa grandeur et sa majesté par ses œuvres dans la création, et entre autres en créant l'homme, en créant l'être humain. Et ce matin, on va voir comment les œuvres de Dieu nous parlent de lui, combien nous parlent de sa grandeur et de sa bonté envers nous. Et ce matin, encore une fois, on veut prendre le temps de méditer sur notre Dieu, sur sa personne, pour mieux comprendre qui il est pour nous, comment il agit, et pour peut-être parfois mieux saisir certains aspects de nos vies qui, parfois, Dieu va permettre des choses, Dieu va permettre des situations. Et ça ne veut pas dire qu'on va toujours comprendre, mais quand même, en découvrant Dieu et son plan, on peut arriver quand même à tourner nos regards vers lui et se confier en lui. Alors, juste avant de poursuivre, on va se courber dans un mot de prière, demander à Dieu sa grâce, que Dieu nous accompagne et puis puisse nous parler à travers cette étude ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, ton nom est grand, ton nom est magnifique. Lorsqu'on prend le temps, Seigneur, de méditer sur tes œuvres, on réalise que ça nous dépasse, ta grandeur nous dépasse. Ta grandeur est insondable. Lorsqu'on regarde notre petitesse à comparer à la grandeur de l'univers, et tu dis que tu tiens l'univers entre tes mains, Seigneur, combien nous sommes petits devant toi. Nous sommes faibles et nous sommes totalement dépendants de toi, Seigneur, pour vivre et pour te connaître. Et Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Ta parole qui nous révèle, qu'à travers elle, tu nous révèles qui tu es, tu nous révèles ta personne, pour qu'on puisse te connaître, pour qu'on puisse entrer en relation avec toi. Oui, Seigneur, tu as voulu un jour venir nous chercher dans nos péchés, là où nous étions, Alors que nous étions tes ennemis, Seigneur, tu nous as tant aimés en Jésus-Christ. Tu es venu pour te réconcilier avec nous. Tu as montré par là que tu étais un Dieu grand, qui était au-dessus de toutes choses, mais en même temps qui était près de nous. Et dans la personne de Jésus-Christ, tu t'es révélé à nous, tu nous as fait voir ton amour pour nous. Et aujourd'hui, par ta grâce, Seigneur, on peut vivre en relation avec toi. Et ma prière, c'est que nos études ensemble puissent nous aider à découvrir combien tu es puissant, combien tu es grand, combien tu es présent dans nos vies. Et qu'à travers toutes les épreuves que tu peux permettre, à travers que ce soit des situations heureuses ou malheureuses que tu permets dans nos vies, on puisse trouver notre espoir en toi, Seigneur. Trouver notre appui sur toi, en toutes circonstances. Et que tu puisses te révéler à nous et nous te manifester à nous dans toute ta puissance, Seigneur. Viens parler à nos cœurs ce matin, viens nous parler dans nos situations que nous vivons présentement, afin que tout notre espoir puisse reposer sur toi et que notre joie puisse, on puisse trouver pleinement notre joie et notre satisfaction en toi seul. Parce que c'est toi, Seigneur, qui es digne de recevoir toute la louange et la gloire de tes enfants. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, on est rendu, comme je le disais, dans la section sur la Trinité, dans la troisième leçon. On n'avait pas eu le temps de terminer la troisième leçon la semaine dernière. Donc, je vais commencer et on va essayer d'avancer rapidement à travers les choses qu'on a à voir ce matin. La Trinité. Lorsque je pense à la Trinité, je pense premièrement à une confession de foi. C'est une confession de foi de l'Église. Parce que lorsqu'on étudie le sujet de la Trinité, on ne trouve pas le mot « Trinité » dans les Écritures. La Trinité, c'est un enseignement qu'on déduit des Écritures. Lorsqu'on regarde les Écritures et qu'on étudie les passages, on apprend à connaître davantage notre Dieu, mais on ne voit pas le mot « Trinité » dans les Écritures. Et ça fait partie quand même de notre confession de foi. La confession de foi de l'Église de l'Espoir affirme ce que nous croyons à propos de Dieu. Nous croyons en un Dieu créateur de toutes choses, saint, souverain, éternel, existant en trois personnes égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est notre confession de foi. On affirme croire en un Dieu qui existe en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes distinctes. Et la doctrine de la Trinité, c'est probablement une des doctrines les plus difficiles à comprendre du christianisme. C'est pas quelque chose de simple. Lorsqu'on essaie de réfléchir à un Dieu qui existe en trois personnes et puis qui se manifeste en trois personnes différentes, et comprendre comment ces trois personnes-là sont à la fois Dieu et comment ça peut exister, tout ça, ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre compréhension même. Mais c'est ce que la Bible nous révèle. Et notre croyance en Dieu, en un seul Dieu, c'est qu'il y a un seul Dieu et existe en trois personnes qui sont entièrement distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça nous vient, cette doctrine-là nous vient particulièrement, évidemment des Écritures, mais particulièrement du 4e siècle dans l'histoire de l'Église. Un 4e siècle qui a connu, où on a... vers la fin du 3e siècle, début du 4e siècle, on commençait à questionner si Jésus, le Christ, était réellement un être divin, s'il était Dieu. Et puis, il y a eu plusieurs débats dans l'Église à ce moment-là pour défendre la divinité de Jésus-Christ. Une fois qu'on a défendu la divinité de Jésus-Christ, ça s'est passé au Concile de Nicée en 325. On a affirmé qu'il était Dieu, Dieu de Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu, dit la confession de Nicée, lumière de lumière. Et donc, il est Dieu dans son essence même, le Fils est Dieu. Mais on n'affirmait pas rien, on n'affirmait rien en fait sur le Saint-Esprit. C'est au cours du 4e siècle qu'on a commencé à débattre de si le Fils est Dieu. Qu'est-ce qu'il en est du Saint-Esprit maintenant? Et puis, c'est au Concile de Constantinople en 381 qu'on a affirmé, que l'Église a affirmé la divinité du Saint-Esprit dans sa confession de foi. Et donc, ça nous vient environ du 4e siècle, mais on va voir ensemble que ça vient surtout des Écritures et c'est ce qui est important. C'est que l'Église, devant les confrontations ou même les objections par rapport à la divinité de Jésus-Christ, a pris les Écritures pour défendre la divinité de Christ et la divinité du Saint-Esprit. Et on va voir c'était quoi les passages sur lesquels les pères de l'Église se sont basés pour défendre ça. Lorsqu'on parle de la doctrine de la Trinité, il y a trois affirmations qui sont importantes. Premièrement, il est important d'affirmer qu'il y a un seul Dieu. Et ça, il n'y a pas grand monde qui vont aller à l'encontre de ça à l'intérieur du christianisme ou même des plus grandes religions du monde. L'islam affirme qu'il existe un seul Dieu. Ils ne croient pas à la Trinité, par exemple, mais ils vont affirmer qu'il y a un seul Dieu. Et même les unitariens chez les chrétiens, ils vont croire en un seul Dieu. Ça, ce n'est pas la base du problème. Là où on commence à voir un problème, c'est lorsqu'on affirme qu'il y a un seul Dieu, mais qu'en même temps, ce Dieu est trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, ça, c'est la deuxième affirmation que l'on fait. Et pour confirmer tout ça, on ferme la boucle en disant, et ces trois personnes distinctes-là sont Dieu. Donc, trois choses à retenir. Il y a un seul Dieu qui existe en trois personnes, et les trois personnes sont Dieu. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament qu'on connaît bien, qui affirment ces affirmations-là, et entre autres, le fait qu'il y a un seul Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste comme un seul, comme le seul qui doit être adoré dans Exode 20, les versets 2 et 3, entre autres, à l'intérieur des 10 commandements. Dieu dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, parce que je suis Dieu. » Il y en a juste un. Et pour cette raison-là, il est le seul qui est digne d'être adoré. Donc, il est le seul Dieu. Deutéronome 4, 35 va même affirmer ça davantage en disant, « Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu. » Qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu, le seul Dieu qui existe, c'est l'Éternel. Les autres dieux, c'est des dieux faits par les hommes, conçus par les hommes. Et de ça découle le fait des commandements qui disent qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur et de l'adorer lui seul. Et dans Deutéronome 6, entre autres, les versets 13 et 14, Dieu donne des instructions. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Donc, étant donné qu'il y a un seul Dieu, on doit adorer ce seul Dieu-là. 1 Roi 8, 59 et 60. Je n'aurai pas le temps de lire tous les passages, mais je vous les donne ici. Encore une fois, une affirmation qu'il y a juste un Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Il dit « Afin que les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. » Ça, c'est les passages de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit aussi qu'il y a un seul Dieu. Entre autres, dans 1 Timothée 2, 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Paul affirme dans le Nouveau Testament qu'il y a un seul Dieu. Donc, si... Lorsqu'on parle de la doctrine de la Trinité, on ne parle pas de trois dieux, d'un trithéisme, mais d'un monothéisme. C'est un seul Dieu en trois personnes. Et là, on va voir comment on arrive à articuler ces trois, comment les trois sont Dieu. C'est ce qu'on voit, entre autres, qu'il y a trois personnes distinctes en Dieu. Il y a des passages dans l'Ancien Testament qui ne sont pas extrêmement clairs sur la doctrine de la Trinité, mais qui pointent vers une pluralité en Dieu. Dieu n'est pas seul. Il semble y avoir un conseil de Dieu. On voit ça dans Genèse 1, 26, entre autres, au moment de la création, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Lorsqu'il parle de « Faisons l'homme à notre image », de qui il parle? À qui il est en train de parler? Est-ce qu'il est en train de parler aux anges? On va faire l'homme à notre image. Non, les anges ne sont pas des êtres qui reflètent l'image de Dieu. Non, on semble voir ici qu'une pluralité en Dieu, un conseil en Dieu qui se consulte au moment de la création pour dire « faisons ensemble un être, des êtres à notre image ». Ce n'est pas clair, on ne voit pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Avec notre compréhension du Nouveau Testament, on comprend que... qu'ici, c'est probablement ça qui a lieu, une consultation au milieu de Dieu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui dit « Faisons l'homme à notre image ». La même chose dans Genèse 3, 22 se reproduit. L'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous ». Encore une fois au pluriel. Il n'est pas devenu comme moi. Il ne dit pas, voici l'homme est devenu comme moi. Non, il est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Encore une fois, Dieu qui parle au pluriel. On voit même dans l'Ancien Testament des passages où Dieu a carrément un dialogue avec, par exemple, entre le Père et le Fils. Dans le psaume 45, c'est repris aussi dans l'Épître aux Hébreux, je crois, ou même dans le Nouveau Testament, par Jésus, même dans les Évangiles, le psaume 45, 7 et 8. « Ton trône, ô Dieu, est à toujours, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » On voit la fin, c'est pourquoi, ô Dieu, le psaume parle à Dieu, ton Dieu t'a oint. Ton Dieu t'a fait le Messie. Le Messie, le Christ, ça voulait dire oint. Oint d'huile pour être un roi, pour être un prophète sur Israël. Et là, c'est comme si le Père est en train de parler au Fils et dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Et donc, je pense que c'est ça qui se passe ici. C'est le Père qui parle au Fils. Et même Jésus va prendre ces paroles-là. J'ai oublié de noter la référence dans le Nouveau Testament, mais je pense dans l'Évangile de Matthieu où il confronte les pharisiens. Expliquez-moi là, ça, cette idée-là. Là, que pourquoi si Dieu parle à Dieu? Et donc, on voit ici, je crois que c'est ce qu'on voit, c'est la Trinité qui est en dialogue. La même chose dans le psaume 110. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. » Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parole de l'Éternel à mon Dieu, à mon Seigneur. Donc, l'Éternel parle à un Dieu. C'est qui ce Dieu-là? C'est le même. C'est Dieu. Mais plutôt, c'est ce qu'on voit, c'est un dialogue dans les personnes de la Trinité. Donc, rien de très clair dans l'Ancien Testament, mais des pointeurs vers une pluralité en Dieu. Dans le Nouveau Testament, on commence à voir un peu plus cette doctrine-là révélée d'une manière plus particulière. Entre autres, lorsque on voit le baptême de Jésus dans Matthieu 3, Jésus est baptisé, et dès que Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux, ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, là, on voit la scène du baptême de Jésus. Jésus est là, en train de se faire baptiser. Et puis, il y a une colombe qui descend du ciel, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe. Et on entend une voix du ciel, qui est le Père, qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Donc, les trois personnes sont réunies à ce même moment-là. Il y a eu un moment dans l'histoire de l'Église où on disait, « Dieu existe. » C'est vrai qu'il se manifeste en trois personnes. On le voit trois personnes, mais c'est trois formes différentes. Pas trois formes distinctes à un moment précis, mais plutôt trois formes que, à travers le temps, Dieu se manifeste de trois formes différentes. À un moment, il est le Père, à un moment, il est le Fils, puis à un autre moment, il est le Saint-Esprit. C'est comme s'il change la forme de sa manifestation. Mais dans ce passage-là, ce qu'on voit, c'est que les trois sont là en même temps. Ce n'est pas un moment dans le temps où il est le Père, un moment où il est le Fils, mais un moment où il est le Saint-Esprit. Les trois sont présents ensemble. Et là, on parle d'une trinité, de trois personnes en Dieu. Et là, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Un autre passage, ce qu'on appelle des passages triadiques, le passage dans Matthieu 28, 19, qu'on connaît bien. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ici, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il ne dit pas de les baptiser dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais plutôt dans le nom. Il y a un seul nom ici. Et le seul nom, c'est quoi? Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, il y a un seul Dieu, mais qui est distinct en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, qui est manifesté ici. Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, à la fin de sa deuxième épître, va encore une fois réunir les trois ensemble en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La grâce de Christ, l'amour de Dieu et puis la communion du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, je trouve que c'est un passage intéressant, puis ça a été, entre autres, un des passages qui a été utilisé par les pères de l'Église pour montrer l'égalité dans les trois personnes. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur, référent au Fils. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Lorsqu'on voit le nom Dieu dans le Nouveau Testament, souvent on fait référence au Père. Donc, il y a des dons différents, ça vient du même Seigneur, du Fils. Il y a des ministères différents, ça vient du même Esprit. Et ensuite de ça, c'est Dieu à travers tout ça. Il y a des choses qui se passent, il y a des opérations, des œuvres qui se font, et c'est tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, on voit à travers ces passages-là, une pluralité en Dieu, que trois personnes en Dieu. Ça, c'est la deuxième affirmation. Ça confirmait la deuxième affirmation. Rappelez-vous, notre première affirmation, c'est qu'il y a un seul Dieu. La deuxième, c'est que il y a trois personnes en Dieu. Maintenant, il y a plusieurs passages qui nous montrent que ces trois personnes-là sont réellement Dieu. Donc, le Père et Dieu partagent les attributs de Dieu, de même que le Fils et Dieu partagent les attributs de Dieu aussi. Ils se manifestent dans une personne distincte qui possède les attributs de Dieu, et le Saint-Esprit, la même chose, qui est une personne distincte, qui partage les attributs de Dieu. Le fait que le Père est Dieu, c'est pas celui qui est le plus difficile à prouver ou qui est le plus difficile à défendre dans le christianisme ou à travers l'histoire de l'Église. Tout le monde admettait que le Père est Dieu. Et on voit plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent du Père comme étant Dieu. Entre autres, dans Matthieu 6, lorsque Jésus, nous montre comment on doit prier, comment on s'adresse à Dieu, on peut dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc, ici, ce qu'on voit, c'est lorsqu'on s'adresse à Dieu, on dit « Notre Père ». Donc, on voit que Dieu s'appelle Père, il est le Père, et donc, le Père est Dieu. Même chose un peu plus loin, dans Matthieu 11, Jésus va prendre la parole, il va prier à haute voix, il va dire « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc, le Père est le Seigneur du ciel et de la terre. Le Père est Dieu. Paul va l'affirmer aussi dans Éphésiens 4, il dit « Il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Donc, un seul Dieu et Père. Donc, ça, c'est quelques passages où on voit les deux mots ensemble, le Père qui fait référence à Dieu, le Dieu qui est l'Éternel. Ensuite de ça, on voit les passages où le Fils est Dieu. Entre autres, dans Jean 1:1, là, il y a des passages que vous voulez retenir pour parler de la divinité de Jésus-Christ. Retenez les 1. Jean 1, Colossiens 1 et Hébreux 1. OK? Lorsque vous voulez voir les passages qui parlent de Jésus comme Dieu, le Fils est Dieu, Jean 1, Colossiens 1, Hébreux 1. On va regarder un peu plus ensemble. Jean 1:1, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Là, on parle que la parole est Dieu. Qui est la parole? On voit plus loin dans Jean 1, verset 14, que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est le Fils, en fait. Et puis, avec le verset 1, on voit que la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Un autre passage intéressant dans Jean 8, l'évangile de Jean pointe beaucoup vers la divinité de Jésus-Christ, entre autres dans Jean, avec le verset que je vais vous mentionner, je vais vous pointer vers quelque chose d'autre par la suite. Mais Jean 8, 58, lorsque Jésus est en débat avec les pharisiens, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Une affirmation. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Bien, le « je suis » qui est révélé dans Exode 3, verset 14, « je suis l'Éternel, je suis. » Tu diras, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il dit, tu diras au peuple que « je suis » m'a envoyé vers vous. Mais Jésus prend le même titre, « je suis. Et dans le grec, le je suis, c'est un verbe, c'est le verbe être au présent, première personne du singulier, présent de l'indicatif. Et puis, à toutes les fois qu'on voit je suis dans l'Évangile de Jean, je crois que Jésus est en train de faire référence au fait qu'il est l'Éternel. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis. Le « je suis », c'est l'Éternel. Donc ça, c'est des indications qu'on voit, entre autres, la divinité de Jésus. Dans Jean 20, 28, Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu », lorsqu'il voit Jésus, il réalise qui il est, il se met à l'adorer. Les témoins de Jéhovah vont prendre ce passage-là parfois, puis ils vont dire « Bien, il ne s'est pas mentionné, mais Jésus ne l'a pas repris. » Par après, il ne l'a juste pas mentionné, mais par après, Jésus l'a repris, parce qu'il ne fait pas adorer Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Mais on ne voit pas ça dans le passage. Et au contraire, les Écritures nous disent tout le contraire. Jésus est Dieu, et Jésus n'avait pas besoin de reprendre Thomas, parce qu'il est Dieu, il est digne d'être adoré. Dans Colossiens 1, là je reviens avec mes 1, Colossiens 1, 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Et on voit au verset 15 auparavant qu'on parle du Fils ici. Qui a créé toutes choses? Le Fils. C'est le Fils qui a créé toutes choses. Et par lui, toutes choses qui existent, même les choses invisibles, même les anges, ont été créées par le Fils. Le Fils est à l'origine de toutes choses parce qu'il est Dieu. Colossiens 2, 9 va dire « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ, la plénitude de Dieu habitait. » Parce que le Fils est Dieu. Et Hébreux 1, les versets 2 et 3, finalement, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Encore une fois, le Fils est à l'œuvre dans la création de l'univers. Et non seulement cela, il est le reflet de la gloire du Père. Il est l'empreinte de sa personne. Lorsqu'on met une empreinte, c'est vraiment... si je mets ma main dans le ciment, ça va être l'empreinte de ma main qui va être là. Et ce que ça représente, c'est ma main. Et donc, le Fils est l'empreinte et la personne même de Dieu qui a été manifestée au monde. Et donc, à travers ces passages-là, ce qu'on voit, c'est la divinité du Fils aussi. On voit aussi, dans le Nouveau Testament, la divinité du Saint-Esprit mentionnée. Entre autres, un des passages qui est souvent mentionné pour cela, c'est Actes 5, les versets 3 et 4. Au moment où Ananias et Saphira vont vendre un champ et ils vont mentir par rapport au prix qu'ils ont vendu, le champ, et ils vont aller un peu plus loin et même dire, en quelque sorte, que le passage, en fait, Pierre va dire, vous n'avez pas menti seulement à nous, vous avez menti au Saint-Esprit. Et puis, après ça, après avoir menti au Saint-Esprit, il dit qu'ils ont menti à Dieu. On va le lire ensemble. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Donc, vous voyez ici, il a menti au Saint-Esprit, il a menti à Dieu. Lorsque tu mens au Saint-Esprit, tu mens à Dieu. Donc, l'Esprit, c'est Dieu. 1 Corinthiens 2, 11 à 13. « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Moi, dans le fond, c'est l'argument que Paul emploie pour dire un esprit à l'intérieur de mon esprit, à l'intérieur de moi-même. Qui me connaît mieux que moi? C'est l'esprit qui est en moi, me connaît. Je me connais. Si je me connais moi-même, ça veut dire que mon esprit me connaît. Donc, l'esprit fait partie de moi. La même chose. Qui est-ce qui connaît le mieux Dieu, sinon l'esprit qui est en Dieu? Et l'esprit de Dieu est Dieu lui-même. Et puis, ensuite de ça, dans Hébreux 9, on voit que l'Esprit possède un attribut, qui a un attribut divin, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, il l'appelle l'Esprit éternel. Il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre qui est éternel sinon Dieu lui-même. Donc, l'Esprit éternel, l'Esprit partage l'éternité de Dieu et donc il est Dieu. Ça survole, c'est un bref survol. J'ai quand même pris quasiment une demi-heure pour le faire, mais un bref survol des passages qui nous montrent qu'en Dieu, il y a trois personnes qui existent éternellement, de toute éternité. Dieu existe en trois personnes distinctes depuis toute éternité. C'est ça la doctrine de la Trinité. Un seul Dieu, trois personnes distinctes, et les trois personnes sont Dieu. Maintenant, on va commencer, on va avancer dans la leçon 4, et puis on va essayer de peut-être survoler un peu plus cette leçon-là sur les œuvres de Dieu. Et comme on vient de terminer, la leçon sur la personne de Dieu. Maintenant, on va voir ce Dieu-là qui est au ciel, à qui la gloire appartient, un Dieu qui manifeste sa grandeur et sa bonté. Comment il la manifeste? Il la manifeste à travers ses œuvres. Et ces œuvres-là commencent avec un plan. Et lorsqu'on parle en théologie systématique, on parle de la doctrine des œuvres de Dieu, ça commence avec le plan de Dieu. Dieu a établi un plan depuis toute éternité, qui va le mettre à exécution. Et ça comprend la création de l'univers et aussi sa providence, le fait de soutenir l'univers et de conduire les événements pour amener jusqu'à la consommation, jusque dans l'éternité. Donc, Dieu dirige un plan qui a été établi depuis toute éternité. Un peu comme un architecte, avant de bâtir une maison ou avant de bâtir un bâtiment, et on va mettre à l'œuvre, va se mettre à l'œuvre pour bâtir un plan précis. La même chose, Dieu a établi un plan dans l'éternité pour mettre ses œuvres à exécution. Donc, le plan de Dieu, c'est son décret éternel qui rend certain tout ce qui se passera. Ça, c'est une définition du plan de Dieu. Donc, un décret éternel, ça veut dire dans l'éternité, Dieu a décrété tout ce qui allait se passer. Et on va voir ensemble comment le plan de Dieu s'est mis à l'œuvre. Donc, premièrement, une des caractéristiques du plan de Dieu, je l'ai mentionné, c'est qu'il a été conçu dans l'éternité. Je vais sauter quelques passages pour aller vers les passages, entre autres, qui pointent vers le fait que Dieu, même avant la fondation du monde, avait déjà établi un plan. Dans Éphésiens 1:4, entre autres, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Vous êtes des chrétiens, vous avez été choisis par Dieu. Quand est-ce que ça a été fait, ce choix-là? Avant la fondation du monde. Avant même que l'univers soit créé, Dieu vous avait choisi. Donc, Dieu avait planifié que vous alliez être ses enfants et finalement a mis son plan à exécution pour qu'un jour on devienne ses enfants. Mais Dieu avait choisi ceux qui voulaient faire de eux ses enfants. Il les avait choisis avant la fondation du monde. Dans 1 Pierre 1:20, on voit que même Jésus, le fait que Jésus allait être crucifié avait été planifié avant la fondation du monde. Entre autres, ça le dit dans 1 Pierre 1:20, « Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Et on parle du Fils qui a été crucifié. Donc, le plan parfait, dans son plan parfait, Dieu avait choisi des gens et même Jésus-Christ avait été prédestiné pour être livré à la croix pour être en sacrifice pour les péchés, pour racheter les élus de Dieu. Donc, puis ça, quand est-ce que ça a été fait? Prédestiné avant la fondation du monde, avant même que la création soit faite, avant même que le péché entre dans le monde, Dieu avait planifié ça. On voit dans Éphésiens 3, 10 et 11, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, le dessein éternel. Dieu avait planifié dans l'éternité que Christ allait venir, qu'il allait avoir un plan qui allait être mis à exécution en Jésus-Christ. Ça a été, quand est-ce que ça a été fait? dans l'éternité. Donc, on est capable de dire que le plan de Dieu, c'est un plan qui est éternel. Ce n'est pas un plan que tout d'un coup, que Dieu a créé l'univers, puis là, tout d'un coup, oh boy, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils sont tombés dans le péché, qu'est-ce que je vais faire? OK, il va falloir, ça va prendre une solution, fait que je vais faire en sorte que là, on va mettre des sacrifices. Ah, puis ça, ça ne marche pas non plus. Finalement, ça va prendre quelque chose de mieux que ça parce qu'ils continuent de pécher, ce beau monde-là. Ça va prendre mon fils qui aille sur la terre pour les sauver. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Dieu savait déjà d'avance tout ce qui allait se dérouler avant même qu'il crée l'univers. Tout, il savait déjà tout d'avance parce qu'il l'avait planifié. Des fois, c'est difficile de dire « wow, wow, ça pose plein de questions, je comprends ». Et puis, on ne peut pas aller dans toutes les questions que ça l'implique, mais quand même, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ce qu'il faut prendre pour nous présentement, c'est de dire « Dieu avait planifié avant la fondation du monde qu'il allait choisir des enfants, qu'il allait envoyer son fils pour mourir sur la croix, et Dieu allait mettre à exécution son plan dans toute éternité, même dans 2 Timothée 1:9. Paul parle de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc, c'est dans l'éternité que Dieu établit son plan. Le plan de Dieu, c'est pas, que comme je disais, là, le résultat qui a été contraint de quoi que ce soit. Dieu était totalement libre d'exécuter son plan. On voit que Dieu est souverain sur toute chose et cela fait en sorte qu'il est libre. Il est le plan de Dieu, c'est le résultat de son libre choix. Dieu, tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit dans l'univers, c'est Dieu dans l'éternité qui l'avait planifié, mais le résultat de son libre choix. On voit dans le psaume 115, 3, une affirmation très forte. « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Psaume 135, 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Donc, ce que Dieu accomplit, c'est sa volonté. S'il se passe quelque chose dans le plan de Dieu, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ésaïe 40, encore une fois, ça, c'est des passages profonds. Oui? Pardon? Les abîmes. Les abîmes. Oui, c'est dans le fond, c'est tout, ça peut inclure toute l'univers, dans un sens, les profondeurs de la mer, les endroits cachés, en quelque sorte, là, ouais, c'est ça. Partout, là, même où ce qu'on n'est pas capable d'aller, ou jusqu'où même on n'est pas capable d'aller, Dieu fait ce qu'il veut même là. Fait que Dieu est en train d'accomplir son plan à travers ça. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel, Ésaïe 40? Et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Son plan n'était pas soumis aux désirs et aux actions de sa création. Donc, ce que Dieu est en train de ce qu'on voit ici, c'est que Dieu, il n'y a personne, absolument personne qui est venu conseiller Dieu dans l'établissement de son plan. Dieu était totalement libre. Dieu a fait ce qu'il voulait. Et on voit ça aussi dans Éphésiens 1:11, où Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, Dieu établit un plan éternel. Ce plan-là est le résultat de son libre choix, de ce qu'il désirait. Et finalement, un autre point par rapport au plan de Dieu, c'est que Dieu a établi un plan qui était pour sa gloire. Ultimement, tout ce qui se passe, tout ce qui existe dans l'univers a pour but la gloire de Dieu. Ésaïe 48, 11, c'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, Dieu agit. Lorsque Dieu agit, il le fait pour sa gloire. Le but ultime de la création, c'est de glorifier Dieu, de rendre gloire à Dieu. On a lu Colossiens 1, 16 tout à l'heure que toutes choses ont été créées par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. C'est car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre, etc. Et puis à la fin, il va dire tout a été créé par lui, pour sa gloire, dans le but de le glorifier. Toutes choses ont été créées pour la gloire de Dieu. Apocalypse 4, 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, Dieu a créé, et à cause qu'il est le créateur de toutes choses, il est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, etc. Toute l'adoration de la création doit aller vers Dieu. Dieu s'est manifesté sa gloire et tout existe pour sa gloire. Une des choses qu'on voit aussi, c'est que le plan de Dieu est fondé sur la sagesse de Dieu. Dieu est infiniment sage et tout ce qu'on voit, et toutes les œuvres qu'on voit dans la création, c'est le résultat du plan de Dieu qui est fondé dans sa sagesse. Entre autres pour ça, je vais lire un verset, Proverbe 3:19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc, Dieu, dans son plan parfait, a puisé dans sa sagesse divine pour établir un plan parfait. Donc, toutes quatre choses qu'on a vues jusqu'à maintenant, Dieu a établi un plan qui a été conçu dans l'éternité, un plan qui est le résultat de son libre choix, qui a pour but sa gloire et qui est fondé sur sa sagesse. Ensuite de ça, le plan de Dieu englobe tout ce qui va se passer. Il n'y a pas aucun événement qui est en dehors du plan de Dieu. Ce qu'on voit autour de nous, même les choses les plus atroces qu'on peut être témoin, et c'est là parfois ça devient difficile pour nous d'accepter, c'était pas en dehors du plan de Dieu. Ce qu'on voit autour de nous, c'est le résultat du péché. Et Dieu ne tombe pas de sa chaise ou de son trône lorsqu'il voit des catastrophes ou des choses graves qui arrivent. Il est pleinement conscient parce que ça fait partie de son plan, mais c'est le péché qui est à l'œuvre aussi dans le monde. Mais tout ce qui se passe, Dieu l'a planifié et est pleinement au contrôle de ce qui se passe dans l'univers. Dans le psaume 119:91, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Toutes choses sont soumises à Dieu. Et c'est le fait qu'ils sont soumises à Dieu fait en sorte qu'il est au contrôle. Il n'a pas perdu le contrôle. Il y a des famines dans le monde, il y a des guerres dans le monde. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu est en train d'exécuter un plan parfait qui va amener jusqu'à l'éternité. Et c'est ce qu'on voit dans le psaume 119. Et même Éphésiens 1:11 qu'on a déjà lu, Dieu opère toutes choses. Il n'y en a pas d'exception. Toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Dieu a tout ce qui se passe, c'est parce que Dieu l'a planifié. On voit même dans le fait que Dieu est au contrôle de toutes choses, que le cœur, même nos cœurs sont entre ses mains. Le Proverbe 21:1 va dire « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. » Donc, les décisions des hommes politiques, parfois on se demande, c'est vrai que c'est le résultat du péché, mais même à travers ça, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre même à travers... Est-ce que ça fait que Dieu est pécheur? Non, Dieu n'est pas un pécheur. Ça ne fait pas que Dieu est en train de faire le mal, mais plutôt que Dieu est... Ce n'est pas hors de son contrôle, tout ça. Une chose qui peut nous aider à comprendre un peu ça, c'est lorsque le malheur que Job a vécu. Est-ce que si Dieu avait voulu que le malheur que Job a vécu lui soit évité, si Dieu l'avait voulu, est-ce qu'il l'aurait évité? Absolument. C'est Satan qui vient en présence de Dieu, qui dit « Hey, regarde-le, lui, il est bon, il est intègre, tout ça, tu dis qu'il est un homme intègre, tout ça. Attends, je vais aller mettre un peu d'épreuve, tu vas voir s'il est vraiment intègre que ça. » Dieu a laissé la permission à Satan d'agir et d'aller exécuter. Mais si Dieu avait voulu empêcher Satan de le faire, il l'aurait fait. Pas parce que Dieu n'est pas puissant sur Satan. Mais il a décidé, « OK, non, vas-y, fais-le, mais fais pas ça, ça, ça. » Il y avait des instructions bien claires. Ce n'est pas Satan qui décide ce qu'il va faire à Job. C'est Dieu qui décide ce que Satan peut faire à Job. Et donc, à travers ça, ce que je vois, c'est que Dieu est souverain sur toute chose. Dieu, même dans le mal qui peut arriver, qui est le résultat de l'œuvre de Satan, si Dieu ne voulait pas que ça l'arrive, ça n'arriverait pas. Et si ça l'arrive, c'est parce que Dieu l'a permis. Et ça fait partie de son plan. Donc, lorsque je parle du cœur du roi qui est dans un courant d'eau dans la main de l'Éternel, c'est que Dieu sait très bien qu'à travers sa puissance va jusqu'à même sur le cœur du roi, qui va même, on voit dans l'exemple de Pharaon, entre autres, que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et donc, Dieu a même le contrôle, pas juste sur les éléments naturels, mais même jusqu'au cœur des hommes. Dans Daniel 4, 35, c'est Nébuchadnezzar, lorsqu'il revient à la raison, dit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » Donc, le plan de Dieu englobe aussi les actions des hommes. C'est ce qu'on voit dans ces passages-là. Et finalement, le plan de Dieu est efficace. C'est ce qui est une source d'espérance pour nous. C'est que finalement, ce que Dieu a planifié, c'est ça qui va s'accomplir. Alors, on voit le mal dans le monde. On voit que Dieu permet le mal. Mais un jour, Dieu a promis qu'on allait être délivré du mal. Que Dieu allait vaincre Satan et ses anges. Il allait les jeter dans l'étang de feu pour l'éternité et qu'on allait un jour être avec lui. Si Dieu le dit, c'est parce qu'il va l'accomplir. Et ça, c'est notre espérance. À travers des fois, tous nos questionnements, mais pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Ou pourquoi cette épreuve-là est arrivée? Puis c'est difficile. Mon espérance, c'est que Dieu un jour a promis qu'on allait être délivré du pouvoir, complètement délivré de l'influence du péché et du mal pour être avec lui pour l'éternité. Et donc, le fait que Dieu dit quelque chose, ça fait que ça va s'accomplir. Ésaïe 46, 10, qui est un excellent passage pour ça. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. » Donc, longtemps d'avance, Dieu le dit. Mais le fait qu'il le dit, ça va se passer. C'est une certitude. Psaume 33, 11, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Donc, on voit à travers ça que Dieu est fidèle et que Dieu va accomplir sa parole. Son plan qu'il a établi, il va l'accomplir. Il avait promis d'envoyer son Fils venir pour délivrer son peuple de ses péchés. Il l'avait promis longtemps d'avance, au moment de la chute, dans Genèse 3, 15, qu'un jour, la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. En Jésus-Christ, Dieu est venu défaire le pouvoir de Satan, le pouvoir du péché et de la mort. Il est venu nous délivrer. Il l'avait annoncé longtemps d'avance et il l'a exécuté. Jésus nous a promis qu'un jour, il allait revenir, qu'on allait être avec lui pour l'éternité. Il va l'accomplir. Donc, tous les éléments de son plan, Dieu est fidèle et tous les éléments de son plan vont s'accomplir parfaitement. Ultimement, on l'a déjà un peu mentionné, que le plan de Dieu inclut toutes les actions libres des êtres humains. Ça va jusque dans les choix que l'être humain va faire, les choix en toute liberté de volonté que l'homme va faire. Dieu est à l'œuvre à travers ça. Ésaïe 44, 28, il dit « Je dis Cyrus ». Qui était un roi qui allait venir, là, c'est même annoncé d'avance, ça, là. Cyrus, qui est un roi, je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et finalement, Cyrus, lorsqu'on lit l'histoire de Daniel, et même l'histoire, pas l'histoire de Daniel, mais l'histoire de Esdras et Néhémie, qu'on voit que Cyrus a décrété la reconstruction de Jérusalem. Mais ça avait été annoncé d'avance. Et même à travers le roi, un roi qui n'existait même pas encore, Dieu dit, je vais accomplir ma volonté. Donc, Dieu est au contrôle même des actions des hommes. Acte 2, 23, Jésus a été crucifié par les actions des hommes, la crucifixion de Jésus, est-ce que c'est seulement l'œuvre d'action libre des hommes? Non, Dieu était derrière ça, c'était le plan de Dieu. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Donc, Christ a été crucifié par des hommes, mais c'était selon le plan éternel de Dieu. Dieu l'avait décidé d'avance. Et Dieu n'a pas été comme pris au dépourvu. « Hey, ils sont en train de tuer mon Messie, là. » Non, non, c'était ça qui était prévu. Parce qu'il venait nous délivrer de nos péchés. Donc, ce qu'on voit à travers ça, c'est que Dieu a un plan. Et Dieu a un plan qui s'exécute. Dieu est fidèle, il va mettre à exécution son plan. et que, dans le fond, Dieu est au contrôle, Dieu est souverain sur toutes choses. Le temps passe tellement vite quand je suis avec vous pour expliquer toutes ces affaires-là. Je n'ai jamais le temps d'aller au bout de mes idées, au bout de ce que je veux vous présenter le matin. Mais il y a deux éléments qui sont importants de comprendre par rapport au plan de Dieu. C'est que Dieu a planifié la création du monde. Et après ça, on voit comment Dieu a mis en œuvre la création, mais aussi le fait que Dieu est souverain sur sa création. Dieu soutient sa création. Et on n'aura pas le temps de le voir ce matin. Ce que je pense que je vais vous inviter à faire, c'est peut-être de lire vos notes, d'aller regarder les passages, parce que sinon, la semaine prochaine, c'est notre frère Basile qui va être avec nous, qui va enseigner sur la doctrine des anges et de Satan, entre autres. Je ne veux pas, changer la planification qu'on avait faite. Donc, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec le reste de la leçon. Peut-être que je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va s'arrêter ici. Puis on va juste remercier le Seigneur pour sa grâce. Dieu est au contrôle là, ce matin. Je n'ai pas surpris que je n'aie pas fini ma leçon. Mais on peut s'en remettre à sa grâce. On peut s'en remettre à sa souveraineté aussi. Malgré des fois toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, Dieu est au contrôle. Et ça, c'est notre confiance qu'on peut avoir en lui. On va se courber ensemble. C'est notre Seigneur, notre Dieu. Ta sagesse nous dépasse. On ne peut pas tout comprendre, Seigneur. Mais tu nous révèles dans ta parole qui tu es. Tu nous révèles dans ta parole ton plan qui est parfait, que tu avais établi dans l'éternité, Seigneur, et que tu rends certain que tout va s'accomplir. Ma prière, Seigneur, c'est qu'on puisse développer ta perspective sur les situations qu'on peut vivre dans nos vies, Seigneur. Je sais qu'il y a des gens ici qui vivent des épreuves difficiles, des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi tu as permis ça dans leur vie, Seigneur? Et avec ma sagesse, Seigneur, je ne peux même pas répondre à plusieurs questions des gens qui viennent me voir, qui vivent des épreuves, qui disent « Pourquoi, Seigneur? Et pourquoi le Seigneur permet ça? » Je ne peux pas répondre. Une chose que je peux dire, par exemple, c'est que tu es au contrôle. Tu es fidèle. Puis ton plan parfait, qu'un jour tu vas te délivrer du mal, de la souffrance qui existe sur la terre. Un jour tu vas revenir, Seigneur Jésus, dans la gloire et on va être avec toi pour l'éternité. Et ça, c'est notre espérance. On veut fixer les yeux sur ta grandeur, sur le fait que tu es un Dieu qui est au-dessus de toutes choses et que malgré nos circonstances, toi, tu règnes. Et qu'un jour on va être avec toi pour toujours. Il n'y aura plus de larmes qui vont couler de nos yeux. Il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de pleurs. Et Seigneur, aide-nous à avoir hâte à ce moment, à garder notre espoir en toi, que nos yeux soient fixés sur toi et qu'on puisse chercher notre délivrance de jour en jour, la chercher en toi. Et que tu puisses, Seigneur, être notre Dieu, celui en qui on se confie de jour en jour. Seigneur, merci pour ta parole et merci parce que tu nous enseignes par elle. Aide-nous à toujours mieux te comprendre, à grandir dans ta connaissance, afin que tout cela puisse servir à ta gloire, à toi seul. Viens disposer nos cœurs à t'adorer, Seigneur. On veut te louer par nos chants, on veut te louer aussi à travers des cœurs réceptifs à ta parole. Viens continuer de nous enseigner ce matin, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.